Podcast, série, les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 27, les réseaux belges. Quelques autres réseaux pédophiles belges avant l'affaire du trou. Les réseaux pédophiles, eh bien figurez-vous qu'avant l'affaire du trou, les médias belges osaient en parler. En parcourant les archives numérisées d'un quotidien belge qui commence au milieu des années 90, on constate que de grosses affaires impliquant des réseaux pédophiles étaient venues au jour, entre 92 et 96. Dans ces affaires, la justice s'était montrée particulièrement clémente avec les coupables. Et depuis 96, année du scandale de l'affaire du trou, on ne lit plus un seul article sur les réseaux pédophiles. Comme s'ils avaient tous cessé leur activité depuis cette affaire, dans laquelle, pourtant, on a conclu que le dénommé du trou était un prédateur isolé. L'affaire du gendarme qui prostituait des enfants. Cette affaire explose moins de 6 mois avant l'affaire du trou, début février 1996. Les gardiens d'un parking souterrain à Bruxelles ont vu sur les vidéos de surveillance qu'un gendarme abuse d'enfants dans le parking. Les gardiens en parlent à la police qui réagit très vite. De son côté, la gendarmerie est au courant de tout cela depuis le mois de novembre, un mois avant la police. Mais elle ne veut surtout pas la médiatiser et reprochera ensuite à la police de l'avoir fait. Bref, la garde des polices, qui a également été la toile de fond de l'affaire du trou, battait son plein. La fusion gendarmerie-police, qui occupait l'actualité, est devenue une réalité peu de temps après. Revenons à notre gendarme, pédo et proxo. Il s'appelait Hedwig Wiebrecht, et bizarrement, bien que l'affaire ait duré presque 10 ans, il n'y a quasiment plus rien à ce sujet sur le web. Fin janvier 95, un gendarme de la brigade de Gingelom, à Saint-Tron, est mis en tôle, ainsi qu'un dénommé Alija Seket, jeune yougoslave de 18 ans, qui a fourni les enfants à Wiebrecht. Ils étaient amants, semble-t-il, et 7 clients du réseau. Seulement 7, bien que les flics aient saisi l'agenda de Wiebrecht. Le gendarme, c'est donc Hedwig Wiebrecht, maréchal des logis de 34 ans. Dans le coffre de sa Mercedes, on a trouvé des centaines de photos pédoporno et des cassettes du même registre, avec des viols d'enfants. Parmi les clients, on avait un type de 80 ans, vice-président du Dolphinarium de Bruges, et le monsieur communication de l'aéroport d'Ostende. Une quarantaine d'autres clients, mais qui ne consommaient que des photos, nous dit-on, avaient été repérés. Chez tout ce petit monde, 17 personnes au total, on a retrouvé des cassettes de vidéos pédoporno. Et encore, les perquisitions ont eu lieu 4 ou 5 jours après que l'affaire ait été révélée dans les médias. La blague. Quant aux enfants, ils étaient originaires d'ex-Yougoslavie et avaient entre 8 et 14 ans. On nous a dit qu'ils avaient tous été identifiés. Ils seraient donc 17. Tous domiciliés dans le quartier de la place Flaget, un quartier avec un fort taux élevé d'immigrés arrivés récemment à 2 pas du Parlement européen. Côté face, Wiebrecht était un gendarme jugé irréprochable par ses supérieurs. De 84 à 90, il a été envoyé à Bruxelles pour travailler au palais de justice, puis il est retourné dans le Limbourg, à la brigade de Gingelon. Voilà pour le côté face. Côté pile, le gendarme gérait un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs, issu en l'occurrence de Yougoslavie, pays ravagé à l'époque par une guerre dite civile. Il avait même réalisé une sorte de book et prenait des photos des jeunes dans ce parking bruxellois ou encore dans des hôtels. Wiebrecht amenait les enfants chez les clients, recrutés par petites annonces, à bord de sa Mercedes, parfois jusqu'aux Pays-Bas où résidaient certains d'entre eux. Les passes étaient payées entre 4 000 et 7 000 francs belges par les clients, soit en gros 100 à 170 euros. Une grande partie de cette somme allait à Wiebrecht, qui donnait aux enfants entre 10 et 25 euros, avec lesquels il devait encore rémunérer ses quêtes. Officiellement, Wiebrecht n'a commencé à prostituer les enfants qu'en septembre 1995, mais en réalité, certaines de ses victimes ont été abusées en 1992, si pas avant encore. En l'occurrence, il s'agissait d'un gamin que sa mère avait du mal à gérer et que Wiebrecht avait en quelque sorte pris sous son aile, entre guillemets. Un autre gamin racontait la même chose. Une fois seul avec le Pandore, il les obligeait à se déshabiller, les prenait en photo dans des poses suggestives et abusait d'eux. Après cela, Wiebrecht décide d'abuser d'enfants, de sans-papiers, et comme à l'époque, nous faisions la guerre en ex-Yougoslavie, les réfugiés donc, étaient donc yougoslaves pour la plupart. Apparemment, il a rencontré Alija Sefket à la place Flaget, au lieu de prostitution bruxellois à l'époque où on trouvait aussi des ados. Sefket était alors à la tête d'un petit réseau de prostitution d'ados yougoslaves. Bref, tout le monde est mis en tôle, et voilà que Wiebrecht est libéré sous condition le 16 juillet 1996, après 5 mois de préventive. Viré de la gendarmerie, il s'est reconverti, après un internement psychiatrique, en chauffeur de voiture, métier pour lequel il avait déjà fait ses preuves en livrant des ados à des clients. Le jugement a eu lieu fin 1999. Déjà, on sentait que la justice n'était pas pressée de rendre justice, et à la surprise générale, le parquet a requis le sursis pour 10 des 11 prévenus envoyés au tribunal. Le seul pour lequel le parquet demandait du ferme, c'était Sefket, contre qui on a requis 4 ans ferme. Pour sa défense, Huybrecht a dit que Sefket l'avait menacé de dévoiler leur relation à ses supérieurs et qu'il l'avait forcé à participer à son réseau pour passer les petites annonces, réaliser les séances photos des ados et parfois les conduire chez les clients. Non mais on rêve quoi. C'est le petit immigré de 18 ans qui fait chanter le gendarme, ben voyons. Accessoirement dans cette affaire, aussi on a saucissonné le dossier, puisque certains clients ont été jugés à part, comme cet informaticien allemand qui a pris un an ferme. Bref, finalement, Sefket, qui s'était enfui, a pris 5 ans ferme. Huybrecht a pris 2 ans pour attentat à la pudeur sur des mineurs et association de malfaiteurs, ce qui n'est pas cher payé. Quant au client, le plus sévèrement condamné a pris un an ferme. Le quotidien Le Soir, du 3 décembre 1999, précise que, je cite, « Ces peines assez faibles sont essentiellement dues à la complaisance dont ont fait preuve les jeunes victimes. Selon le tribunal, ces enfants, souvent d'origine yougoslave, ont délibérément prêté leur collaboration au réseau. What » What? Je vois pas le rapport, c'est des mineurs. N'importe quoi. Et d'après l'agence de presse Belga, le même jour, je cite, selon le tribunal, les enfants se sont laissés enrôler sans résistance et gagnaient d'importantes sommes d'argent en se prostituant. Ils déterminaient eux-mêmes ce que leurs clients devraient payer et fixaient eux-mêmes les limites de leur relation. La plupart de leurs parents n'en ont en outre rien fait pour éviter cela. Au vu de ces éléments, le tribunal n'a accordé aux enfants qu'un franc symbolique à titre de dommages et intérêts. Fin de citation. Alors là, c'est quand même magnifique. En gros, mais pourquoi on les embête? En fait, ils veulent se prostituer, laissez-les, quoi. C'est presque de l'humanitaire, hein. C'est magnifique. Et puis, comme en fait, ils étaient volontaires, donc en fait, c'est même pas des victimes. Voilà, il n'y a pas de dommages et intérêts. Extraordinaire. Vive la Belgique, vive Pédoland. Allez, on passe à une autre affaire. L'affaire des pédophiles de Neupré. En février 90, c'est une affaire du réseau pédophile impliquant le curé de Quincampoix, près de Liège, qui éclate à son tour. On l'a appelée l'affaire des pédophiles de Neupré, dont faisait partie Louis Dupont, ancien curé, donc de Quincampoix, âgé de 70 ans. C'est une de ses voisines qui s'est retrouvée au centre de ce réseau. Victime depuis ses 12 ans d'un certain Julien Davisson, chauffeur routier de 60 piges, qui la viole régulièrement et est un ancien collègue de son père. Davisson l'a vendue à divers clients durant plusieurs années, ainsi que d'autres enfants de 6 à 13 ans. La première des victimes avait 12 ans quand ses parents, qui travaillaient le mercredi, la confient à Davisson, un ancien collègue de son père. Il la prend au piège en la photographiant, en faisant des montages photos et en la menaçant de les publier. Il envoie anonymement quelques morceaux de ses photos à la mère de sa victime et en accroche d'autres dans un abribus. En 85, Davisson commence à livrer la gamine, alors âgée de 15 ans, à ses clients, 26 paraît-il. L'enfant sera victime d'innombrables viols commis par de nombreux clients et par ses tortionnaires, y compris des viols collectifs. D'après l'un des inculpés, Davisson se vengeait quand elle pleurait, ou à la moindre occasion, notamment en la livrant au plus d'hommes possible. Ce n'est qu'en 87 que la victime parle à ses parents, mais ils ne portent pas plainte. Et voilà qu'en 89, la sœur de la victime qui faisait garder ses enfants par Davisson, bien qu'elle l'ait mise en garde, porte plainte contre Davisson et l'embrie. Ses filles lui ont dit qu'il les faisait boire, qu'il les faisait ensuite des photos de pédoporno et les violait. Cette autre fillette compte parmi les victimes. Mais la plupart des actes classés comme délits sont déjà prescrits, surtout ceux commis quand l'enfant avait moins de 15 ans. 26 types ont été identifiés, mais seulement 3 sont passés aux assises. Comme la justice a décidé de saucissonner l'affaire, en séparant le dossier client, envoyé en correctionnel, malgré qu'ils aient participé à des viols collectifs sur des mineurs, et le dossier organisateur, où 4, puis finalement 3 des coupables ont été envoyés. Certains ont donc vu leur crime correctionnalisé, d'autres ont été internés, 6 ont bénéficié d'un non-lieu, ou bien ont mis fin à l'action publique pour prescription. L'affaire a donc été expédiée en correctionnel, où elle a été vue en huis clos, pour 16 inculpés, dont 5 seulement ont été vaguement condamnés. 4 autres ont été acquittés parce que, nous explique Le Soir, je cite, « il ne fut pas établi que ses clients eurent conscience du manque de consentement de la victime. » Quoi ? Mais quel est le rapport ? On rêve. D'autres ont eu le droit aux assises. Davisson, qui a pris la perpétuité, le curé a pris 10 mois de prison, ce qu'il a fait en préventive, et est donc sorti libre du tribunal en promettant de rester dans un monastère. Ah mais oui. Non mais la Belgique, je vous dis, c'est... On fait même pas semblant là-bas. Armand Lambris, un retraité de 72 ans de Neupré, a pris 20 ans, mais a demandé de nouvelles expertises. Yvan Fumagalli, un ouvrier de Chesnay, qui était un peu l'homme à tout faire du curé, a été acquitté. De fait, selon Le Soir du 29 février 92, le bilan de ce scandale est ubuesque. 4 acquittements, 7 prescriptions, 5 condamnations à des peines avec sursis. C'est pas beau ça ? Et quelques condamnations quand même aux assises. Le quotidien explique encore au sujet de ces peines de sursis, je cite, 5 sont condamnés avec sursis. Albert Degey, né en 48, électricien, domicilié rue du Sart à Serein, est condamné à 2 ans avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Le tribunal souligne notamment qu'il servit de rabatteur à Davisson. Même peine, 2 ans avec sursis pour le surplus de la préventive, pour Jean Sols, né en 35, domicilié rue Surlet à Liège, qui a entretenu 2 fois des relations sexuelles avec la jeune fille, et notamment dans une cellule de viol collectif, souligne le tribunal. Carlo Bracco, né en 63, toujours à Liège, son frère Giacomo Bracco, né en 60, à Ans, et qui vivait à Ans, tous les deux ouvriers coiffeurs, sont condamnés respectivement à 2 ans avec sursis et 20 mois avec sursis. Eux aussi ont participé à des scènes de viol collectif. Enfin, Antoine Hulance, agent provincial, né en 32, domicilié également à Liège, est sanctionné par 18 mois de prison avec sursis pour viol. 18 mois de prison avec sursis pour viol d'une fillette. C'est la quatrième dimension. Le tribunal rappelle qu'il s'était rendu compte que Davisson commandait et qu'il ne s'était pas soucié de l'âge de la fille. Bah oui, hein, il pensait qu'elle avait 32. Tous sont interdits de leurs droits pour 5 ans et payeront solidairement 1 franc provisionnel à leurs victimes. Ah bah ça c'est sympa, hein. Fin de citation. Lambry et Davisson étaient les organisateurs de ce réseau et prétendaient garder 2 fillettes d'amis le mercredi après-midi. En parallèle, ils recrutaient des clients par petites annonces. Et parmi ces clients, on a encore donc le curé de Quincampoix et Fumagalli, son homme à tout faire. Les victimes étaient droguées et ensuite on filmait les viols pour revendre les cassettes. L'avocat général lors du procès a parlé d'eux, je cite, « par tous costumés auxquels participait le curé en soutane et son exigence d'une fille très jeune et d'un jeune garçon ». Fin de citation. Le dit curé se montrait le plus brutal des visiteurs et le plus assidu parmi les clients, disait la seule victime qui a finalement été concernée par ce procès. Il y avait déjà commis des actes pédos dans divers lieux où il a hélas pu officier auparavant. Bien sûr, l'Église, qui était probablement au courant, n'a pas bougé. Pour tenter de baisser la peine de leurs clients, Maître Issel et Maître Charlier, les avocats de Davisson, qui décidément devaient avoir les moyens pour un simple chauffeur routier, et Maître Lévy et Maître Jeunhomme pour Lambry, ont déclaré que leurs clients avaient un niveau intellectuel très bas. Mais enfin, on ne peut tout de même pas les laisser recommencer sous ce prétexte. Dans cette affaire, les victimes qui venaient de milieux plutôt défavorisés ont mis des années avant de parler tant elles étaient terrorisées. Elles n'ont pas témoigné au procès qui s'est déroulé à huis clos. Sur les 130 témoins qui se sont succédés, la plupart ont largement défendu les coupables. Pour résumer l'ambiance, le quotidien Le Soir du 4 février 1992 mentionnait ainsi. Je cite « Au fil du temps, l'affaire s'est effilochée, et les 26 prévenus ont connu des sorts différents. La justice a découpé ce dossier en tranches. Que va-t-il en sortir ? 16 prévenus se sont retrouvés lundi devant le tribunal correctionnel de Liège qui a prononcé d'emblée le huis clos. » Fin de citation. Au nom des bonnes mœurs, entre guillemets, et cela à la grande satisfaction des accusés, notamment du curé, dont les avocats ont beaucoup insisté pour obtenir ce huis clos. Car en effet, dans un procès à huis clos, les débats ne sont pas, par définition, pas publics, et les médias ne peuvent pas savoir ni communiquer ce qui est dit à l'audience. Le public non plus, et cela arrangeait bien le pouvoir, autant que les accusés. Quant au dit huis clos, il était précisé par la journaliste Nicole Jacquemin, dans le quotidien Le Soir du 8 septembre 1992, que, je cite, la victime principale réclamait la publicité des débats, car elle a l'impression que justice ne lui a pas été rendue, et que déjà la décision de huis clos prise en correctionnel a empêché la réalité d'être connue. Même requête de Maître de la Brassine, l'avocat général, qui allait rappeler que la règle est la publicité des débats, et qu'en l'occurrence, il était fondamental que le public soit averti des dangers que peuvent courir des enfants. Fin de citation. Oui, mais non. Les snuff movies de la place Fontenas. En octobre 1996, l'affaire Dutroux, donc je vous renvoie évidemment à un podcast consacré particulièrement à l'affaire Dutroux. Je vous renvoie également à une autre affaire qui avait eu lieu en Belgique, c'est l'affaire Chris UNICEF, avec un autre podcast consacré. Donc en octobre 1996, l'affaire Dutroux a déjà explosé et a occulté une autre belle affaire de réseau pédoporno. Des flics des mœurs bruxellois identifient 3 ados, 13, 14 et 15 ans, qui tapinent à côté de la place Fontenas, autre lieu de prostitution homosexuelle et de mineurs en plein cœur de la capitale belge. Les 3 ados sont d'origine serbo-croate, et 2 d'entre eux ont déjà été pris en photo par le gendarme proxénète, Huibrecht, exactement 1 an plus tôt. Le dit gendarme n'apparaît plus dans cette affaire, il ne faut pas oublier qu'il a été libéré de prison en juillet 1996, avant même d'être jugé, donc quelques mois auparavant. Les enfants ont donc dénoncé certains de leurs clients, dont l'un habitait Place Fontenas, justement, et a été rapidement identifié comme étant Alain Maigre, 34 ans. L'individu avait été condamné pour exhibitionnisme et il était depuis peu sous le coup d'une instruction à Tournai, pour y avoir recruté des enfants et les avoir filmés dans des poses pornographiques. Maigre était en lien avec le gérant d'un vidéoclub à Bruxelles et a facilement pu organiser la vente de ses productions. Là aussi, il s'agissait d'enfants de familles défavorisées et les accusés ont dit qu'ils se prostituaient volontairement. Mais bien sûr, les enfants n'aspirent que cela, a-t-on envie de dire. Bref, revenons à la place Fontenas. Un deuxième client, Frédéric Capeller, 29 ans, est arrêté à son tour. Lors des perquisitions effectuées au domicile des deux pédos, des taudis pleins de cafards, les flics ont mis la main sur 600 cassettes vidéo et des centaines de revues, dont certaines étaient pédophiles, et leurs fichiers clients. Puis deux autres clients, justement, sont attrapés. Chez l'un d'eux, Michel Schlim, déjà condamné à 3 ans de prison en 93 pour des faits de mœurs, on a retrouvé des snuff movies, donc ces vidéos de mise à mort d'enfants, en l'occurrence de 7 à 17 ans environ. C'était officiellement la première fois qu'on trouvait ce genre de film amateur en Belgique. Ben voyons. D'après un enquêteur qui parle sous couvert de l'anonymat, il s'agissait, je cite, de cassettes vidéo pédophiles montrant des scènes de torture pratiquées sur des enfants ainsi que des mises à mort de ces petites victimes préalablement violées. C'est la première fois, semble-t-il, que pareille abomination est découverte dans notre pays. Fin de citation. Non, non, non. Mais ce pédo n'a été inculpé que pour détention de pornographie enfantine et attentat à la pudeur sur des enfants de moins de 16 ans. Lors du procès, on a considéré que, comme on ne pouvait pas prouver que ces films n'étaient pas des mises en scène, on les a laissés de côté. Ah oui. Pas d'investigation sur ces enfants, sur les adultes qu'on y voit, rien. Schlim fréquentait un vidéoclub porno, Erot X, pas loin de la place Fontenas, pour trouver des vidéos porno. Erot X était alors géré par Alain Maigre et deux autres clients impliqués dans l'affaire y allaient également. De là, Maigre et les trois clients nouent des relations, et Maigre prête son appartement aux trois autres pour y amener des mineurs dont ils abusent et qu'ils filment. Parmi ces mineurs, certains jeunes d'ex-Yougoslavie qui étaient dans le réseau de Huibrecht, deux autres gamins ont été amenés là par Capeller et un autre client, des ados en décrochage familial qu'ils avaient accostés à la gare de Tournai. Pour les forcer à les suivre, ils les ont emmenés dans un entrepôt désaffecté pour abuser d'eux et les filmer. Mais les deux pédos ont été acquittés pour ces faits, le tribunal considérant que les jeunes étaient consentants. Capeller et l'autre client, qui ont été acquittés pour les faits de Tournai, prennent un an et demi de prison ferme. En Belgique, on peut être libéré à un tiers de sa peine. Maigre a pris 2 ans et demi, une peine légèrement plus forte car il a vendu des vidéos de viol de mineurs, chacune étant revendue entre 6 et 7 000 francs belges. Les cassettes de Schlim ont davantage choqué l'auditoire car il s'agissait souvent de scènes de torture et de violence contre des mineurs parfois très jeunes. Schlim a donc été condamné à 6 ans ferme. Et tout le monde a eu un sursis probatoire avec l'obligation de se faire soigner. Ah bah c'est formidable. Les peines étaient tellement dérisoires que même l'avocat général a fait appel du jugement.